Et en s'adressant à la maman, parce que, tu sais, elle aussi, elle est mère, là. Tout le monde est des humains là-dedans. Puis, elle a voulu lui dire, vous êtes plus qu'une maman gestionnaire de trauma. Je vous souhaite, avec tout mon être, que ça aille mieux pour la suite.
Eh mon Dieu.
Et on a souligné, évidemment, l'aplomb et le courage de cette femme-là, qui avait d'ailleurs fait installer des paravents pour ne pas qu'elle puisse regarder l'accusé pendant qu'elle
OK. Puis lui, toi, t'avais-tu... Est-ce que tu le
Mais ça
voyais aussi?
Personne l'a vu, en fait. Parce
OK, c'est ça, c'est
il était
vraiment
encadré
devant
de
lui.
paravent, comme, étant donné qu'elle ne doit pas le voir, ça
OK.
fait que nous, on ne l'a tous pas vu.
Nous autres, vendredi après-midi, on a fait une chronique bière. Le vendredi, souvent, on est plus léger. On s'est amusé avec Richard Martineau. Puis je pense que dans bien des jobs, un vendredi après-midi, on est déjà un peu à 50 % en mode week-end. Ton vendredi après-midi, ça a été d'entendre ces causes-là. Comment est-ce qu'on fait pour pas traîner ça toute la fin de semaine à la maison?
Bien, on en jase avec les personnes qui comprennent. C'est les collègues du Palais de justice et aussi les collègues du Soleil. Puis on ferme les livres, puis on prend un petit verre.
Ouf!
Mais c'est le genre d'histoire qui te garde longtemps, puis on en parlait encore ce matin au bureau.
Ouais.
Puis on en parle aussi avec les avocats qui sont là, parce que tout le monde comprend un petit peu, mais c'est...
Pas grand rayon de soleil là-dedans, là.
Non, puis c'est correct de... Tu sais, je le dis tout le temps, c'est correct de dire que ça s'est passé, puis il faut pas faire comme si ça n'existe pas, ces choses-là. Là, je vous le dis, là, sinon c'est mettre des lunettes roses. Ces choses-là arrivent. Maintenant, on doit les traiter. Il faut qu'il y ait des conséquences. Puis il faut qu'on pèse sur le crayon pour dire ça, là, si vous faites ça, ça va être sévèrement puni. Puis c'est tout ce que le tribunal peut faire, là, envoyer un message de dénonciation et de dissuasion le plus puissant possible. Regardez tout ce que ça fait, là, si vous agissez comme ça. Voici les conséquences, elles sont graves. Pensez-y deux fois.
Judith, encore un gros merci pour ta belle humanité, ta grande sensibilité quand tu nous racontes ces histoires-là. Tu surveilles quoi cette semaine au Palais de justice? T'es-tu sur un dossier en particulier?
Oui, c'est le procès de Régent Bacon, celui qui a personnifié le Père Noël durant plusieurs
années. Oh! Dans le petit Champlain en bas!
C'est commencé pour 6 semaines. Le jury a été sélectionné aujourd'hui. Vous savez que j'adore la sélection de jury.
Ouais.
Ah ouais.
J'adore ça. C'est tous des gens qui n'ont aucune idée de qu'est-ce qu'ils vont venir faire, qui débarquent au Palais de justice.
Mais là, ils
sont
demandent...
un peu apeurés, un peu.
Il lui demande quoi comme question?
Croyez-vous
au Père Noël? Ouais, c'est ça.
Non, c'est tout le temps une question générale pour savoir si ça va, ils vont être impartiaux ou non pour ce genre de dossier. Et là, on parle d'un homme qui est accusé d'agression sexuelle et de plusieurs chefs de proxénétisme.
Lui, à base, cette agression sexuelle, puis c'est au fil de l'enquête, c'est quoi? C'est des gens qui ont porté plainte, puis on s'est rendu compte que c'était plus grave?
En fait... Il a été... mon Dieu, ça commence à faire longtemps parce que ça traîne, ce dossier-là. Là.
Oui, ça me semble. Hein?
Oui. Le procès était censé être tenu l'an dernier. Fait que là, on a eu un an de report. Il y a des victimes qui sont identifiées et il est aussi accusé d'agression sexuelle sur des victimes non identifiées. Okay. Donc, ça dit ce que ça dit. J'en parlerai pas trop pour pas contaminer le jury, mais tout ça commence officiellement jeudi. Il y a des requêtes à trancher d'ici là et jeudi, on va commencer à entendre la preuve avec la déclaration d'ouverture et à ce moment-là, on en saura davantage et je pourrai parler des détails de l'enquête.
Merci beaucoup, Judith.
Merci à vous.
Si ça peut contribuer au procès, j'ai une photo de mes deux enfants avec le Père Noël en question.
Non, t'es-tu sérieux?
Très sérieux.
Si t'avais été sélectionné pour le jury, t'aurais peut-être pas été impartial, toi. Justement.
Ouais, c'est ça. Non, ça fait que c'est ça que j'aurais utilisé pour pas y aller, parce que moi, je te l'ai déjà dit, je veux pas être sur un jury.
Mais moi, je te donnerai jamais de trucs pour ça.
C'est
ton devoir de citoyen.
Mon devoir de citoyen d'aller m'ostiner avec 11 autres personnes.
Ce serait excellent.
Hey, que je suis pas sûr. Je pense que je serais horrible. j'ai trop de préjugés, je pense. Puis j'ai pas beaucoup de foi en l'humanité en général. Puis encore une fois, aujourd'hui, ça a pas aidé beaucoup. Hey, merci, Judith.
Merci.
Du fond du cœur. Judith Demel, journaliste judiciaire au Soleil. Il est 17h04. On s'arrête. On revient. 17h39 à Boulevard. Coup d'œil à la circulation, Audrey.
Il y a encore quelques complications si vous êtes sur la capitale en ce moment. Direction Est, dans le coin de Robert Bourassa, mais rien pour appeler sa mère, c'est assez léger, là. Le seul autre ralentissement qu'il y a, c'est vraiment sur le pont Pierre-Laporte en ce moment. Il semble y avoir un accident direction Sud, carrément à la sortie du pont, ce qui fait en sorte que c'est jam-pack dans le coin. Pour le reste, ça roule super bien. Quoi que ce soit d'autre, 88 971 102 texto.
Véro, des inquiétudes concernant Marie-Philippe Poulin, capitaine d'équipe Canada hockey féminin.
D'abord, l'équipe a gagné 5-1 contre la Tchéquie dans son match, puis quand le Canada menait 3-0, elle a été plaquée, puis elle semble avoir été blessée à la jambe droite. Elle est retournée dans le vestiaire, elle est revenue,
elle n'a pas joué.
Elle n'a pas joué, puis finalement, on l'a carrément discartée pour le reste de la partie. Fait qu'on n'a pas de détails sur son état de santé à ce moment-ci, puis c'est demain que les Canadiennes affrontent les Américaines qui ont gagné 5-0 contre la Suisse un petit peu plus tôt aujourd'hui. Fait qu'il y a quand même des inquiétudes de ce côté-là, mais l'équipe canadienne avait l'air quand même assez forte aujourd'hui malgré tout. Fait que ça, c'est quand même dans les questions au moment où on se parle. Puis l'autre de qui on a eu des nouvelles, c'est Lindsey Vonn, la skieuse américaine. Vous avez sûrement vu les images, puis on en a parlé avec Gab un petit peu plus tôt, tantôt, quand vous avez entendu, où elle s'est blessée pendant sa descente olympique alors qu'elle n'était même pas sans participer à cause de sa blessure à son genou. Finalement, c'est une fracture du tibia qui va nécessiter plusieurs autres chirurgies pour être corrigée correctement. Mais sans aucune surprise, elle le dit qu'elle n'a aucun regret de l'avoir faite, juste pour le feeling d'être dans la porte de départ à ce moment-là.
Tu me faisais entendre le point de vue de Dom Gauthier, notre ami Dom Gauthier, du côté de Radio-Canada, lui qui a vécu un sensiblement la même chose à l'époque, là.
Oui, en 98, lui avait eu une blessure aussi à un genou, puis finalement, il avait eu le feu vert pour pouvoir reprendre la compétition, puis il avait décidé de le faire, puis c'est ce qu'il expliquait. Il dit, les athlètes, s'il y a la moindre chance, malgré une blessure, qu'ils soient en mesure de compétitionner, de compléter, puis peut-être même de gagner une médaille, ils vont prendre cette chance-là plutôt que d'avoir des regrets de ne pas avoir essayé.
Mais ce n'est pas une décision qui se prend seule.
Non, c'est une décision
qui se prend en équipe avec les thérapeutes, les médecins,
les psychologues.
Et ainsi de suite. Puis t'as bien beau t'appeler Lindsey Vonn, là, tu peux pas aller à l'encontre de tout ce monde-là. Donc, si elle était sur la piste, c'est qu'elle était en mesure de compétitionner. C'est juste dommage que ça se termine de cette façon-là. Véro, tu voulais nous parler d'un sport qui fascine une fois aux quatre ans parce qu'on n'en voit jamais ailleurs qu'aux Jeux olympiques. Tout ce qui s'appelle luge slash bobsleigh.
Toutes les fois qu'on s'installe, mettons, nous, de la manière dont on fonctionne au travail, on a une aire commune. Fait qu'on s'installe là, la télé est ouverte, puis moi, j'aime regarder les Olympiques. Fait que la télé est là, puis ceux que ça intéresse se retrouvent autour. Puis ce matin, on avait Mathias Turcotte, qui est notre journaliste terrain, qui était assis. Puis là, on regardait la luge, puis on commençait à regarder les pointes de vitesse. Parce qu'on disait, c'est-tu ridicule d'embarquer sur un petit traîneau pour descendre une surface glacée.
Là, c'est le sport de la luge, c'est juste de te mettre sur le dos puis de pas bouger.
Puis de gérer les patins avec tes pattes pour être sûr de bien prendre les cours puis pas te tuer.
Mais c'est sûr qu'il y a des technicalités là. Je peux pas parce que sinon n'importe qui pourrait le faire.
Ben, la technicalité numéro un, c'est rentrer dans le saut.
Assurément.
Moi, je passe pas à coupure là.
Ou sur la luge.
Le zipper ne se referme pas là.
On va commencer par évaluer les vitesses en luge, en skeleton puis en bobsleigh. Selon vous, en luge, on glisse à combien?
Ben là, premièrement, démêle-moi tout ça. Le bobsleigh, c'est ceux qui sont quatre dedans.
Dans une petite navette spatiale.
Okay.
Ils sont deux ou quatre, ça dépend.
La luge,
c'est la tête par en arrière, puis le skeleton, c'est sur le ventre.
OK. Sur le ventre, il faut que tu sois un Christy de malade.
Oui, sérieux. Mais d'après moi, quand t'es sur le ventre, ça va plus vite que quand t'es sur le dos.
C'est lequel le plus rapide dans les trois?
En fait, la luge a le record à 154 km/h. Mais tu sais, les filles, à matin, ça glissait entre 115 et 120 km/h. La moyenne se retrouve entre 120 et 140 km/h.
Ça n'a pas de génie de te dire ils descendent à des vitesses où tu pognes un ticket dans le parc des Laurentides.
Ben,
ça n'a aucun astuce.
Attendez, j'ai pas fini, j'ai des comparatifs pour vous. Le skeleton, le record serait à 146 km/h. La vitesse serait entre 130 et 140, puis je pensais que le bobsleigh était le plus rapide.
Moi aussi,
la moyenne est entre 130 et 140, le record serait à 150, ce qui est quand même excessivement rapide, mais c'est sûr que c'est quand même pas mal plus lourd malgré tout. Je suis allée chercher les vitesses de deux glissades bien connues de la région de Québec pour pouvoir les comparer. Je vous rappelle qu'on parle de vitesse entre 115 et 140 km/h dans ces compétitions-là. D'abord, commencer avec la 1884, qui est la glissade de la terrasse du frein.
Les gens les fêtent, elle.
Savez-vous, ça descend combien pour le fun?
Ça descend pas vite, là.
Combien?
25-30 km/h.
OK, non, moi, je vais plus haut que ça, par exemple. 70, genre?
70
km/h. OK.
Et l'autre que je suis allée chercher, c'est l'Everest. Du village vacances Valcartier.
Elle est plus vite, là.
Elle est un peu plus rapide.
Un petit peu plus rapide, OK.
Je pense...
80 km/h.
J'aurais pensé qu'il y avait vraiment une plus grande différence que ça entre les deux glissades.
Non, mais tu sais, tu as un angle qui est similaire, mais il y a une hauteur qui est différente. Je pense que c'est peut-être plus ça la différence. Fait que quand vous les voyez descendre en luge, en skeleton ou en bobsleigh, dites-vous qu'on est très, très loin de la vitesse qu'on fait ici quand on va sur ces glissades-là. Moi, je trouve que ça descend vite, celle sur Dufresne.
Oui, quand même, mais tu sais, la vitesse à la TV versus la vitesse quand t'es à côté, la différence est tellement sidérante. Puis la première fois que vous voyez du hockey de la Ligue nationale, puis que vous êtes assis dans l'aréna...
Versus devant la télé, là.
C'est hallucinant. Des fois, tu vas au centre Vidéotron, puis tu te dis, Christy, les remparts sont-tu plus vite qu'à la Ligue nationale de hockey? Ben, maintenant, tu vas t'asseoir au Centre Bell, puis tu compares, tu fais non, la TV est trompeuse. Puis... avec les nouveaux angles de caméra, parce qu'on continue de s'améliorer, puis là, on est rendu avec des drones, puis je sais que les drones font du bruit, puis que
non, ça
te tape ses nerfs, mais je regardais le saut à ski acrobatique ce matin, puis maintenant, avec certains angles, t'es capable de regarder la TV puis de comprendre la hauteur.
Incroyable.
Tu sais, le plan de par en dessous, là, par en dessous des sauts, là, tu saisis beaucoup plus la hauteur qu'ils prennent que le plan de côté où tu te dis, ouais, ils sautent haut, mais pas tant que ça.
Non, c'est vraiment impressionnant.
Dit-il assis dans le salon avec son double menton et ses 15 livres de
facile
trop.
Facile dans
là.
Ce temps-là. Ah non, nos perceptions sont tellement pas les bonnes.
C'est faussé, beaucoup.
C'est tellement facile d'être des gérants d'estrade tu les vois, quand ils chutent, quand il y a une perte d'équilibre, quand il y a une figure de raté ou quoi que ce soit, alors que, mon Dieu, c'est des performances de haut niveau.
J'ai hâte qu'on reparle à Dom Gauthier parce que, moi, mettons, ces trois sports-là dont tu viens de nous parler, Véro, là, je comprends pas comment tu te ramasses, là.
Quand j'étais jeune, je trouvais que ça avait l'air hot. Parce que, tu sais, nous, on avait connu les Jeux de Calgary, puis il y avait une piste à Calgary, fait qu'il y avait de l'entraînement là-bas. Je me suis dit, hey, ça a l'air cool, tu sais, comme t'es en gang, puis tu descends.
Quand j'étais jeune, puis épais, j'avais une bonne joke. Voulez-vous l'entendre?
Vas-y.
Ben, comment on trouve des athlètes pour le bobsleigh? On demande à des gens, êtes-vous des athlètes? Non. Voulez-vous gagner des médailles? Oui. Bienvenue dans l'équipe de bobsleigh. juste avant que Véro vous parle justement d'Olympique et d'activité physique, j'en ai fait mention tantôt. Je ne sais pas si vous êtes allé voir la photo du carnaval.
Oui, je
l'ai
vu.
Dans le temps du carnaval. T'as-tu vu le Palais des Glaces?
Incroyable.
Ça n'a pas de bon sens. C'est un beau texte que le Soleil a fait en collaboration avec la Société d'histoire...
les archives de la Ville de Québec, c'est ça?
Exact. C'est Jean-Simon Gagné qui a écrit sur le carnaval, au temps du carnaval. Puis le Palais de Glace du carnaval existait il y a 130 ans à Québec. Le carnaval moderne a débuté en 1955, mais avant ça, il y avait des carnavals qui étaient organisés, mais de façon très irrégulière. C'était pas à tous les hivers. La grande fête de 1896 est restée parmi les plus célèbres. Cette année-là, il y a un journaliste du Spectateur qui raconte que les statues de glace sont nombreuses sur la rue Saint-Joseph. Tous les curieux veulent voir une réplique de la Statue de la Liberté sculptée à partir d'un gros bloc de glace devant le magasin JB La Liberté. La Liberté porte une grande ampoule électrique rouge qui éclaire vraiment les environs. C'était le spot pour mettre des statues. En ville, plusieurs constructions éphémères valent le détour. C'est le cas d'un grand fort de neige bâti près de la gare du Palais. Mais rien n'égale le colossal palais de glace érigé devant le Parlement. Je ne sais pas si vous pouvez décrire la photo. Ça ne répond pas aux normes de sécurité de 2026.
C'est pas compliqué, c'est la tour de réponse. La princesse.
C'est vrai.
La princesse avec les grands cheveux. Là.
En glace.
Voilà.
C'est débile. 40 mètres de haut, cette affaire-là. On raconte qu'elle contenait 2000 blocs de glace. En 1896, le carnaval de Québec dure 6 jours. Programme chargé. Mais le main event du carnaval dans ce temps-là, c'était quoi? C'était pas un défilé. C'était l'attaque du palais de glace.
Ça, c'était comme dans la guerre des Turcs, mais avec le palais de glace au lieu du fort.
Le soir du 1er février, c'est l'apothéose. Des milliers de coureurs de bois en raquettes se mesurent amicalement aux militaires de la citadelle. Plusieurs brandissent des torches, font éclater des pétards, puis on fait vraiment un combat pour prendre d'assaut la citadelle. Pour faire plus vrai, un grand feu d'artifice illumine la mêlée. Il y a un canon véritable qui est amené sur les lieux. Il se met à tirer à blanc pour mettre de l'ambiance. En tout, l'activité de l'attaque coûte 1 775 $ à l'époque. C'est environ 67 500 $ en dollars d'aujourd'hui. Après ça, tu avais le grand défilé aux flambeaux dans les rues de la ville, des guerriers Wenda de Lorette qui se joignent aux militaires et de nombreux habitants. On parle d'un succès monstre. Ça, c'est le carnaval, au temps du carnaval, en 1896 à Québec. C'est quand même assez impressionnant. Véro!
On vous a parlé des Jeux olympiques, puis on a une super belle promotion en collaboration avec PCN. On a parlé un peu des sports qu'on a regardés aujourd'hui, mais là, pour l'occasion, on veut aussi savoir quel sport vous inspire, puis quel sport vous pratiquez. Vous allez au blvd.fm dans la section promotion concours et vous pourriez courir la chance de gagner une prise en charge complète en physiothérapie grâce à PCN Physio. Ça veut dire l'évaluation, les conseils, les traitements qui vont vous être offerts pour pratiquer votre activité dans les meilleures conditions possibles encore longtemps ou même débuter un nouveau sport qui vous inspire. On va nommer un finaliste à chaque jour à partir de demain avant de dévoiler le grand gagnant vendredi le 20 février. PCNPhysio.com, vous allez pouvoir trouver leurs 15 cliniques sur la rive nord et sur la rive sud de Québec et connaître l'ensemble de leurs services. Puis vous allez voir, ça va bien au-delà de la physiothérapie. Gravel. Boulevard.